Chapitre 6. La tête du dragon. Et la sombre Ertre, mère de tous, leva les yeux, grave et résolue, et secoua la tête. « Cela ne se peut, » dit-elle. « Nous ne sommes pas tenus par une promesse que des hommes ont faite. Mon aîné doit rester ici pour me succéder. De femme à femme, notre autorité doit se transmettre. Vous voulez prendre notre Narcheska pour reine ? Des trésors dont nous accepterions de nous démettre, elle serait le dernier, si grand soit votre exploit. De fait, montrez-moi comment vous avez rempli les termes de votre serment. Par votre sang, vous avez juré de revenir une fois son désir accompli. Ô prince loin-voyant, rappelez-vous votre propos orgueilleux de poser devant l'âtre de notre maison la tête de glace-feu. » La tête du dragon, de Niel Bruant. Nous suivîmes mes marques dans le labyrinthe des anciens et émergeâmes au sortir de la crevasse dans la paroi, sous un ciel éclatant. L'air vif nous saupoudrait de cristaux de glace qui rendaient glissant le sentier escarpé. La luminosité du jour me faisait larmoyer. Le fou passa devant moi pour emprunter le raidillon. Là, fouetté par le vent et le froid, il ne put dissimuler sa faiblesse, et je pestais tout bas contre ma propre stupidité. Il était épuisé. La deuxième fois qu'il glissa, je le saisis fermement par le col et l'aidai ainsi à conserver son équilibre jusqu'à la porte de l'homme noir. « Frappe !» lui dis-je, mais il leva vers moi un regard trouble, hébété de fatigue. Je tendis alors le bras et cognai moi-même du poing sur le bois. Le battant s'ouvrit aussitôt, à croire qu'on nous attendait. Pourtant, le fou demeura pétrifié, les yeux écarquillés devant l'homme noir qui nous souriait. « Il a froid, et il est éreinté, » fis-je en guise d'excuse. Et d'une poussée dans le dos, je le fis entrer. Je le suivis, refermai derrière moi, puis me retournai avec soulagement vers la grotte accueillante. Je battis des paupières en attendant de m'habituer à la pénombre au sortir de l'éclat du jour. Je distinguai d'abord la petite cheminée, puis découvris l'homme noir et le fou qui se dévisageaient mutuellement d'un air de totale incrédulité. « Il était mort ?» me dit notre hôte d'un ton catégorique. Il était mort. Il ouvrait de grands yeux. En effet, acquiesçai-je, mais je suis le catalyseur. Je modifie les événements. À cet instant, l'ours bondit de la pierre d'âtre et me serra dans ses petits bras en dansant comme un ours nain et en criant.
Tu es revenu, tu es revenu. Je croyais que tu ne reviendrais jamais. Un bras dit. « Le bateau arrive !» Et j'ai dit, « Mais Fitz n'est pas là, et je ne veux pas monter dans un bateau. » Alors il a dit, « Il arrive quand même !» Et il est arrivé. Mais il n'y avait personne. Et il est reparti parce que j'ai dit, « Non, je ne veux pas rentrer tout seul. Et puis je ne veux pas monter dans un bateau de toute façon. »
Il cessa de sautiller sur place et déclara avec un sourire satisfait,
« Ou bien tu es mort ?» Ou bien tu regretteras d'avoir survécu quand Umbro te passera un savon. C'est ce qu'il a dit de voir. Ah, et puis, la tête du dragon, j'ai oublié de te raconter ça. Ortia a réussi. Elle a envoyé la tête du dragon à la maison maternelle. Et tout le monde a été drôlement étonné, sauf moi. Elle m'avait dit qu'elle pouvait y arriver. Parler à Tintaglia et lui faire payer cher si elle n'obéissait pas. Alors elle a obéi. Et maintenant, tout va bien. »
Il avait prononcé ces dernières phrases avec tant de conviction qu'il me creva le cœur de répondre, devant son visage lunaire radieux. « Je crois que je n'ai pas compris la moitié de tes propos, et j'ai l'impression que mon absence a duré davantage que je ne l'imaginais, mais je suis content d'être revenu. » Je m'extirpai avec douceur de son étreinte. Un silence insolite régnait à l'autre bout de la pièce. L'homme noir et le fou se regardaient sans rien dire, non avec hostilité, mais avec l'air de ne pas en croire leurs yeux. En les voyant ainsi face à face, je discernais entre eux une ressemblance, mais de celles qui proviennent d'une ascendance commune, non d'une proche parenté. Le premier, notre hôte, prit la parole.
« Bienvenue, » fit-il d'une voix défaillante.
« Je ne vous ai jamais vu. » répondit le fou avec stupéfaction. « Dans tous les avenirs que j'ai pu distinguer, dans tout ce qui pouvait advenir, Je ne vous ai jamais vu. »
Il se mit à trembler tout à coup, et je compris qu'il était à bout de force. L'homme noir parut s'en rendre compte lui aussi, car il approcha un coussin du feu, et, à signe pressant, invita le fou à y prendre place. Mon ami s'effondra plus qu'il ne s'assit, et j'ôtai mon manteau de ses épaules en expliquant « Le feu te réchauffera plus vite ainsi. »
« Je ne souffre pas du froid, à ce point, je crois, »
répondit-il d'un ton sans énergie.
« Je suis en dehors de mon temps, Fitz. Je me sens comme un poisson hors de l'eau ou un oiseau sous la mer. J'ai dépassé mon existence et je marche désormais chaque jour à l'aveuglette sans savoir ce que le destin attend de moi. C'est dur, c'est très difficile pour moi. »
Sa voix mourut. Il leva des yeux implorants vers l'homme noir, comme pour le supplier de l'aider. Il dodelinait de la tête. Je ne savais que dire. Me reprochait-il d'avoir voulu prolonger sa vie? Cette idée me poignit douloureusement, mais je me tus tandis que l'homme noir cherchait ses mots. « Ça, je peux inculquer. » Il s'interrompit, et un sourire apparut sur ses traits, lent comme un lever de soleil, puis il pencha la tête vers mon ami et prononça une phrase dans une langue que je ne connaissais pas. Alors le fou s'ouvrit à lui, comme une fleur s'ouvre à la lumière. Un sourire tremblant éclaira son visage, et d'un ton hésitant, il répondit dans la même langue. L'homme noir poussa un grand cri de joie, dit quelque chose à toute vitesse en se désignant, puis, comme s'il se rappelait soudain ses manières, prit la bouilloire, une tasse, et avec un geste élégant, servit de la tisane au fou avant de la poser devant lui. Le fou le remercia avec profusion. Apparemment, il fallait de longues phrases pour exprimer les idées les plus simples. Je n'arrivais pas à relier la moindre syllabe à aucun parler que j'eusse entendu dans ma vie. La voix de mon ami s'affaiblit. Il reprit son souffle et acheva son discours. Comme un adolescent, j'éprouvais un violent sentiment d'exclusion. Le fou parut le percevoir, car il se tourna lentement vers moi et repoussa d'une main tremblante des mèches de son visage.
« Je n'ai pas entendu la langue de mon enfance depuis, ma foi, depuis que je suis parti de chez moi. Tu ne sais pas le bonheur que je ressens à l'entendre de nouveau. »
Lourd avait dû avertir Imbre et Devoir de mon retour, car je sentis alors de tels coups portés contre mes murailles d'art que j'eusse pu croire à un assaut. À contre-cœur, je convins qu'il était temps de leur ouvrir. Je pris la tasse de tisane que l'homme noir m'avait servie, m'installai près du feu, puis, voyant le fou absorbé dans sa discussion avec notre hôte, acceptai de baisser mes remparts. Dans une explosion de fureur, d'exaspération et de peur qui précéda toute pensée, Imbre me secoua comme un prunier et me roua de taloches comme si j'étais un jeune serviteur désobéissant. Quand il eut fini, je dus mettre un comble à son irritation en éclatant de rire, réaction qui réjouit fort de voir.
« Vous ne devez pas aller trop mal si vous pouvez rire ainsi. Jamais je ne vous ai senti l'esprit aussi léger. »
Je perçus sa surprise et sa stupéfaction. Imbre y fit écho aussitôt.
« Qu'est-ce qui te prend? Es-tu saoul ?»«
Non, réconcilié avec moi-même, sain et sauf, tout comme le fou. Mais ça peut attendre. Tout va-t-il bien pour vous? Le prince a-t-il gagné le cœur de sa belle? Lourd m'a raconté une histoire échevelée à propos d'une tête de dragon déposée devant la cheminée de la maison maternelle. Est-elle vraie? Qui a tué Glacefeu?
Personne. Le dragon a déposé tout seul sa propre tête sur la pierre d'âtre. Mais oui, tout semble réglé. »
répondit Imbre avec une satisfaction farouche.
« Maintenant que nous te savons hors de danger, nous pouvons prendre la mer dès demain, du moins si Devoir trouve le courage d'annoncer à sa promise qu'elle doit nous accompagner. »
« Je lui laisse seulement le temps de s'assurer qu'elle n'obéit qu'à sa propre volonté, » rétorqua Devoir sèchement. « Je ne comprends pas. Quelqu'un aurait-il l'obligeance de tout me raconter en commençant par le commencement ?» Imbre et Devoir me narrèrent donc par le menu, entre les commentaires excités de Lourd, la façon dont Horty avait harcelé, tourmenté Tintaglia, semé le trouble dans ses rêves et ses heures d'éveil, bref, dont elle avait fait son siège pour qu'elle rétribue les humains chétifs qui avaient tant souffert afin de rendre la liberté à Glacefeu. À son tour, la reine dragon avait forcé son mâle, comme un pigeon contraint sa femelle à gagner le nid, à se rendre à Zilig, où les deux immenses créatures s'étaient présentées aux Edgurdes réunies, puis à Vuisling, sur l'île de Maïlé. Là, ils avaient atterri devant la maison maternelle d'Eliania. À ce que je compris, la suite ne s'était pas déroulée sans quelques dégâts architecturaux, mais enfin, le gigantesque glace-feu avait pénétré dans le bâtiment et posé sans grâce et très brièvement sa tête sur les pierres d'âtre, afin que fût complètement remplie la promesse de devoir à la jeune fille. Je croyais qu'Eliania s'était déclarée satisfaite, qu'elle considérait devoir comme digne d'elle et fidèle à sa parole depuis qu'il avait participé au sauvetage de sa mère et de sa sœur. Je ne voyais pas la nécessité d'une pareille mise en scène.
« Ah ça, elle se montre en effet très satisfaite depuis quelques jours !»
répondit Humbre d'un ton aigre, et j'eus dans l'idée que la vertu de devoir n'avait pas résisté aux avances de la jeune fille.
« En revanche, sa mère regimbe, au grand chagrin de Péotre. Avant même que nous ne mouillions à Zilig, Ertre nous a annoncé qu'elle ne s'estimait pas engagée par un accord concernant sa fille passée entre hommes. Elle ne conçoit pas qu'Eliania quitte son foyer, fût-ce pour devenir reine des six duchés. Elle a soulevé 1000 objections au contrat et conclu qu'étant elle-même vivante, et par conséquent seule et unique Narcheska, il avait été arrêté sans autorisation valable. Elle renâcle à l'idée que Lestra hérite de son titre, car elle la juge inapte à lui succéder, et elle s'horrifie à la pensée que les enfants d'Eliania et de Devoir resteraient dans les six duchés.
À part nos fils, intervint le prince.
« Exact !» concéda Humbre. « Elle s'est montrée fort empressée de permettre à Devoir et Eliania de... enfin, de devenir... d'avoir... »
Il ne trouvait pas de formule édulcorée pour exprimer sa pensée. Devoir fut plus prosaïque. « Elle m'a autorisé à partager le lit d'Eliania. Elle paraissait indignée qu'on pût songer à s'opposer à la volonté de sa fille quant à celui avec qui elle souhaitait coucher. » Et la Narcheska Ertre a proposé que les enfants mâles ainsi conçus soient donnés au six-duché, à l'âge de 7 ans. Comme par une entente tacite, ils se turent pour me laisser le temps de digérer cette clause. Elle était inacceptable. Aucun duc ne donnerait son aval à un héritier éduqué dans ces conditions. Et maintenant que Glacefeu a permis à Devoir de triompher du défi d'Eliania, la Narcheska Ertre a été impressionnée. Il faut reconnaître qu'il est difficile de rester impavide quand une créature aussi monumentale traverse toute la maison pour poser sa tête sur la pierre d'âtre, surtout avec l'encadrement de la porte autour du cou. Le prince irradiait une satisfaction adolescente que je ne pouvais pas lui reprocher. Je crois qu'elle n'a plus d'objection à présenter, et même si elle nourrit encore des réserves, les témoins du Edgurd ont assisté à la scène en assez grand nombre pour les réduire au silence. Il regarde désormais comme un honneur qu'Eliania s'en aille dans mon foyer pour fonder une nouvelle maison maternelle, selon leurs propres termes.
Comme si elle conquérait les six duchés tout entiers en devenant reine,
fit Ambre d'un ton ronchon, où néanmoins je perçus aussi du soulagement. On pouvait prévoir des difficultés dans l'avenir, lorsque les us de sa terre natale se heurteraient aux nôtres. Si elle donnait le jour d'abord à un enfant mâle, sa famille s'offusquerait-elle qu'il ait la préséance sur ses sœurs en matière d'héritage? J'écartais ces questions de mes pensées. Il serait temps de s'inquiéter des problèmes au moment où ils surgiraient. Et comment a-t-on amené le dragon à se plier à cette mise en scène?
Demande à Lourd. Apparemment, on doit ce résultat à Horty et lui.
Mon sourire s'effaça. Il fallait que je sache. Horty est-elle au courant de la mort de Burik? La réponse d'Ambre fut grave et laconique.
« Oui. »
À sa place, je n'aurais pas voulu qu'on me cache une pareille nouvelle, intervint Devoir d'un ton sévère. Je compris qu'il se justifiait autant aux yeux d'Ambre qu'aux miens. J'ai donc agi de la façon qui me paraissait la plus convenable. En outre, il fallait aussi prévenir ma mère, afin qu'elle pourvoie aux besoins de la famille de l'homme qui nous a servi si bien et si longtemps. Et enfin, quand je rencontrerai ma cousine en chair et en os, je veux pouvoir me présenter à elle sans cacher derrière mon dos un sac rempli de sales petits secrets. » Derrière la dureté des mots, je sentis un désaccord entre Devoir et Humbre, et il ne me parut pas opportun d'avancer mon opinion personnelle. D'ailleurs, il était trop tard pour changer quoi que ce fût, et je tentais de réorienter la conversation. Ainsi, le mariage va pouvoir avoir lieu sans que s'y opposent de nouveaux obstacles.
« En effet, Devoir a exigé que nous restions ici jusqu'à ce que nous ayons de tes nouvelles, ou que nous te déclarions définitivement disparu, et en voyons secourir Lourd, que cette perspective n'enchantait pas d'ailleurs. Mais maintenant que te voici revenu, nous allons dépêcher un bateau à votre rencontre sans plus tarder, et dès votre arrivée parmi nous, nous pourrons rentrer chez nous. »
« Pas le bateau !»
intervint Lourd. Sans lui prêter attention, le prince répondit à Imbre. « Je ne considère pas le temps où nous avons entendu Fitz comme perdu. Il n'aurait pas été délicat d'arracher la Narcheska à sa famille qu'elle venait de retrouver. Elle est restée trop longtemps séparée de sa mère et de sa sœur, et je me réjouis de les voir réunies. Et quand son regard passe de sa sœur à moi, Fitz, elle me considère comme un héros. Les bardes outriliens écrivent des ballades sur mon exploit. »
« De très longues ballades, » enchaîna Imbre, « qu'il nous faut écouter, le sourire aux lèvres, quasiment tous les soirs. »
Nous nous tûmes un moment pour savourer notre réussite. Mon prince avait conquis sa future épousée. La paix régnerait entre les six duchés et les îles d'outre-mer. Devoir finit par reprendre. Et j'étais heureux que vous ayez un peu de temps pour affronter votre deuil. Je vous présente mes condoléances, Fitz. Avec douceur, Imbre demanda
« As-tu réussi à retrouver la dépouille du fou ?»
Je tenais mon instant de triomphe. J'ai retrouvé le fou vivant.
Mais je le croyais mort.
La gravité de devoir fondit devant sa stupeur. « Moi aussi, » répondis-je, puis je décidai brusquement de ne pas fournir davantage d'explications. Afin de prévenir d'autres questions à propos du fou, je poursuivis. « Je regrette d'avoir manqué le bateau que vous aviez envoyé. Mais ne vous donnez pas la peine d'en dépêcher un autre. Lourd et moi emploierons pour retourner à Castelcerre un moyen plus simple, qui ne l'obligera pas à mettre le pied sur un pont de navire. » Leur abasourdissement, quand je leur révélai l'existence d'un pilier d'art en état de fonctionnement, ne fut en rien comparable à la joie de Lourd d'apprendre qu'il pouvait rentrer sans passer par un navire. Il me saisit tout à coup par la taille, m'obligea à me lever et se mit à danser et se trémousser en me tenant les mains de façon si emportée que je perdis la concentration nécessaire pour artiser. Je l'agrippai par les épaules et me raidis pour mettre un terme à notre farandole, puis levai les yeux et vis l'homme noir qui nous observait avec un amusement vaguement inquiet. Le fou, lui, paraissait trop épuisé pour manifester aucune surprise. Il vient de comprendre qu'il peut retourner chez lui grâce au pilier d'art. « Leur expliquai-je. Lourd déteste le bateau, et il se réjouit d'apprendre qu'en outre, il ne nous faudra que quelques instants au lieu de plusieurs jours pour effectuer le trajet. » L'homme noir me regarda, apparemment égaré. Alors le fou prononça une phrase dans sa langue, sur quoi l'autre poussa un grand « Ah !» de compréhension et hocha la tête d'un air entendu. Les éclaircissements fournis par le fou durent lui rappeler un incident, car il se lança dans un long monologue adressé à mon ami. Lourd s'arrêta brusquement de s'agiter et parut tendre l'oreille.
« Imbre dit, les manuscrits d'art rapportent les manuscrits d'art. »
Il se tut et fronça les sourcils absorbés.
« Mais pas tout de suite. Ne rentre pas tout de suite. Attends qu'il invente une bonne explication. Mais bientôt. Orti commence à en avoir assez de tous ces messages. Tu y arriverais mieux qu'elle. »
J'avais fourni à Imbre matière à réflexion, et à mon grand soulagement, il prit congé de la conversation pour s'y plonger. Devoir voulut me raconter comment Orti avait persuadé Glacefeu d'offrir sa tête à la Narcheska. Mais Lourd, trop excité, gênait notre communication. En outre, je percevais chez le prince une agitation qui me laissait penser qu'il avait plus intéressant à faire pour occuper son temps que bavarder avec moi. Je le libérai en l'exhortant gravement à la prudence, recommandation dont, j'en suis sûr, il ne tint aucun compte. Revenant à la réalité, je vis le fou qui acquiesçait avec lassitude tandis que l'homme noir discourait à n'en plus finir. Jamais je n'avais entendu pareil baragouin, sans un mot que je parvins à reconnaître. Lourd tint à me raconter son séjour en compagnie de notre hôte, avec force description de repas, la colère et l'inquiétude d'Imbre à mon égard, et l'extraordinaire piste de glissade qu'il avait découverte non loin de la grotte. Je regardais sa figure lunaire qui rayonnait de bonheur. Quel merveilleux petit bonhomme! Avec quelle équanimité il prenait ma réapparition, la résurrection du fou et notre proche retour chez nous sans emprunter un bateau. La joie que lui procuraient ses glissades sur la neige était identique à celle qu'il éprouvait à me voir revenu. Je l'enviais de savoir si facilement accepter le changement et l'incertitude du lendemain. Tandis qu'il babillait, j'essayais d'imaginer ce qui m'attendait dans les jours et semaines à venir. nous allions retourner à Castelserre, charge à moi d'y rapporter la bibliothèque d'art. D'avance, je tremblais à l'idée des nombreux trajets par piliers que cela entraînerait. Néanmoins, cette tâche me paraissait simple quand je songeais à celle qui lui succéderait. Me présenter à Horty et révéler à Molly que je n'étais pas mort. Une vague de désespoir me submergea si brusquement que j'en eus le souffle coupé. En me rendant mes souvenirs, le fou avait ramené mon cœur à l'instant où j'avais su que j'avais perdu Molly, avec toute ma détresse d'alors et tout mon amour pour elle. Je redoutais le moment de notre entrevue et les explications que je devrais fournir. Je redoutais aussi d'affronter sa peine pour son époux, mais je ne pouvais pas m'y dérober. Je le savais. Burick avait pris ma fille sous son aile à ma mort. Pouvais-je faire moins pour ses fils? Mais ce ne serait pas facile. Rien ne serait facile. Pourtant, avec un petit tressautement du cœur, je m'aperçus que j'attendais cette confrontation avec impatience, parce qu'au-delà de notre chagrin pour la disparition de Burick, j'en avais la conviction, il y aurait peut-être autre chose. Ce sentiment me paraissait superficiel et égoïste, mais il n'en existait pas moins, et pour la première fois depuis des années, je voyais devant moi des ouvertures et des possibilités. J'éprouvais tout à coup l'envie de changer, de vivre, de courir le risque d'essayer de reconquérir Molly. L'ours me secouait par l'épaule.
« Alors ?»
fit-il d'un air radieux.
« Tu veux y aller ?»«
Oui, » répondis-je à ma propre surprise, et je me rendis alors compte que je souriais et acquiesçais de la tête tandis qu'il me décrivait ses glissades sur la neige. J'avais accepté de l'accompagner. Il exprimait un bonheur si grand que je n'avais pas le cœur de l'anéantir. Et je m'apercevais soudain que, de fait, je n'avais rien de mieux à faire pour le moment. Un peu de repos serait bénéfique au fou, qui semblait d'ailleurs ravi de bavarder avec l'homme noir. Nous nous en mitouflâmes chaudement et sortîmes. À l'origine, je n'avais l'intention de n'effectuer qu'une ou deux glissades pour satisfaire l'ours, mais il avait trouvé une pente longue et lisse, comme celle qu'utilisent les otaries pour se jeter à la mer, et aussi irrésistible. À force de s'en servir au cours des derniers jours, il l'avait aplani à la perfection. Nous nous y lançâmes sur le ventre, puis ensemble, sur mon manteau, en criant comme des enfants et sans nous soucier du froid ni de l'humidité. C'était le plaisir du jeu, dans toute sa pureté et sa simplicité, un plaisir pour lequel je n'avais jusque-là jamais de temps, que je rejetais comme superflu et perturbateur des tâches routinières d'une vie bien rangée. Quand avais-je perdu de vue la joie de se divertir comme une fin en soi? Je m'oubliais dans cette euphorie et revins brutalement à la réalité en entendant appeler mon nom. Je venais d'arriver en bas de la pente et comme je me retournais pour répondre, l'ours me heurta par derrière. Je fis la culbute et m'étalai dans la neige, sans grand dommage, avec le petit homme sur le dos. Je me relevai tant bien que mal et découvris le fou qui nous observait avec un amusement et une affection difficile à supporter, car il s'y mêlait du regret.
« Tu devrais essayer !»
lui dis-je, un peu gêné d'être surpris à cabrioler comme un gamin dans la première neige de l'année. Une fois debout, j'aidais l'ours à se redresser. Malgré la chute, il souriait d'une oreille à l'autre.
« Mon dos !»
répondit le fou à mi-voix, et je hochai la tête. Brusquement ramené sur terre. Je le savais, son dos encore sensible et ses blessures à demi cicatrisées n'étaient pas seules en cause. Son expérience ne lui avait pas laissé que des balafres et des raideurs physiques, et je me demandais combien de temps il faudrait à son esprit pour recouvrer toute sa souplesse. « Tu te remettras, » lui assurai-je, ainsi qu'à moi-même en m'approchant de lui. J'aurais voulu en avoir une certitude mieux ancrée.
« Prilkop a préparé à manger. » fit-il. « Je venais vous prévenir que c'est prêt. Nous vous avons appelé depuis le pas de la porte, mais vous ne nous avez pas entendus. »
Il se tut un instant.
« La descente avait l'air aisée, mais j'ai vite déchanté. Maintenant, je redoute la remontée. »
« Oui, c'est escarpé, » acquiesçai-je. À la mention d'un repas, l'ours avait pris notre tête au petit trot. « Prilkop ?»«
L'homme noir, il s'appelle ainsi. »
Nous nous dirigions vers le raidillon à flanc de falaise. Le fou marchait à pas lourds, le souffle court.
Il lui a fallu un petit moment pour s'en souvenir. Il y avait longtemps qu'il n'avait plus parlé à personne, et encore plus qu'il n'avait pas employé notre langue maternelle.
« Vous en tirez autant de plaisir l'un que l'autre, dirait-on, fis-je en espérant ne pas paraître jaloux. »
« Oui. »
Il faillit sourire. « Il est parti de chez nous depuis si longtemps que, lorsque je lui ai raconté mes souvenirs d'enfance, il est resté stupéfait de tout ce qui avait changé. Nous nous demandons à présent à quoi ressemble ce que nous avons connu. »
« Ma foi, il peut rentrer maintenant s'il en a envie. Plus aucune vision ne le retient ici, n'est-ce pas ?»«
En effet. »
Nous poursuivîmes un moment notre marche en silence, puis le fou murmura.
« Fitz, rentrer chez soi, c'est retrouver des gens, non un lieu. Si tu retournes dans un pays d'où tout le monde a disparu, tu ne vois que cette absence. »
Il posa la main sur mon bras et je m'arrêtai.
« Laisse-moi reprendre ma respiration, »
me pria-t-il. Puis, il se contredit aussitôt en poursuivant d'un ton grave.
« C'est toi qui devrais rentrer chez toi tant que tu le peux encore, tant qu'il s'y trouve des gens qui te connaissent et se réjouiront de ton retour. Et pas seulement à Castelserre, je pense aussi à Molly et à Patience. »
« Je sais. J'ai l'intention d'aller les voir. » Je le regardais intrigué, étonné qu'il eût pu croire le contraire. De stupéfaction, son visage perdit presque toute expression.
« Tu iras, c'est vrai ?»«
Naturellement. »« Tu ne plaisantes pas, dirait-on. » Il me dévisagea, et il me sembla voir une ombre de déception dans ses yeux. Mais soudain, il saisit ma main entre les siennes et reprit.
« Je suis heureux pour toi, Fitz, vraiment heureux. »
Tu répétais que tu irais, mais tu paraissais indécis. Je pensais que tu risquais de t'y refuser, finalement. Mais que pourrais-je faire d'autre ? Il eut une hésitation, comme s'il s'apprêtait à dire quelque chose, puis se ravisait. Il eut un petit grognement.
Eh bien, dénicher une grotte pour y passer seul les 10 ans à venir, par exemple.
Quelle idée ! Rien ne s'arrangera si je me coupe du monde. Que... Alors, j'eus le plaisir de voir son sourire d'autrefois s'épanouir lentement sur ses traits.
« Aide-moi à gravir le sentier, »
me pria-t-il, et je m'exécutai avec joie. Il s'appuya plus lourdement sur mon bras que je ne m'y attendais. Quand nous parvîmes dans l'abri de Prilcop, je le fis asseoir.
« Vous avez de l'alcool, de l'eau de vie ? » demandai-je à notre hôte.
D'une voix défaillante, le fou lui traduisit ma question, et il secoua négativement la tête. Il s'approcha de mon ami, l'examina, lui toucha le front et secoua de nouveau la tête.
« Je vais faire une tisane, pour lui, une tisane remontante. »
Nous dînâmes ensemble, puis passâmes la soirée à raconter des histoires. Apparemment, le fou et Prilcop avaient étanché leur soif de converser dans leur propre langue. J'improvisais une paillasse pour le fou et insistais pour qu'il s'allongeât près du feu. Puis j'entrepris d'expliquer en détail à l'homme noir les raisons de notre venue sur Aslevial. Il m'écoutait avec attention, en hochant la tête, les sourcils froncés, et de temps en temps, le fou lui fournissait des éclaircissements sur des points qui lui restaient obscurs. Toutefois, mon ami demeurait le plus souvent étendu, les yeux clos, mais l'oreille tendue. Quand il intervenait dans mon récit, je m'étonnais du jour sous lequel il présentait notre entreprise, car, à l'entendre, on eût cru que nous n'avions jamais eu d'autre objectif que réveiller Glacefeu et réintroduire les dragons dans le monde. Sans doute était-ce le cas de son point de vue, mais je trouvais étrange de voir exposer ma propre existence sous cet angle. Il se fit tard, et Lourd avait sombré au pays des rêves depuis longtemps avant que Prilcop ne nous souhaitât bonne nuit. L'espace d'un instant, j'éprouvais une curieuse impression d'ambivalence quand j'étalais mes couvertures à l'écart du fou. Il y avait amplement de quoi nous coucher tous dans la grotte, il n'était plus nécessaire de nous serrer. Pourtant, j'avais dormi tant de nuits contre lui que je me demandais s'il ne voudrait pas me sentir près de lui pour le garder de ses terreurs nocturnes. Mais je ne vis aucun moyen de lui poser la question. Aussi, la tête sur le bras, je le regardais dormir. Les traits relâchés par l'épuisement, il avait néanmoins le front plissé de douleur. Après ce qu'il avait enduré, je le savais, il aurait besoin de se tenir quelque temps en retrait, de s'isoler pour se retrouver. Cependant, égoïstement, je ne voulais pas qu'il s'éloigne de moi encore une fois. Non seulement mon amour pour Molly, mais l'affection et le sentiment de grande intimité que j'éprouvais pour le fou avaient repris toute leur vigueur. Redevenir les meilleurs amis du monde, nous moquer de nos différences, jouir ensemble des bons moments et partager les épreuves avec optimisme, ils représentaient tout cela pour moi, et je me jurais de ne plus laisser ce bonheur me glisser entre les doigts. Avec Molly et lui, je rebâtirais mon existence telle qu'elle aurait dû être. Et patience aussi, me dis-je, non sans étonnement, je la ramènerai dans ma vie, sans souci du prix à payer. Peut-être à cause de la présence de Lourdes non loin de moi, ou bien parce que, pour la première fois depuis que je m'étais aventuré dans la forteresse de la femme pâle, je plongeais dans un sommeil assez profond pour créer mes propres rêves, j'eus la visite d'Ortie, à moins que ce ne fût moi qui lui rendisse visite. Je me trouvais dans un espace baigné de crépuscule, qu'il me semblait reconnaître, mais qui avait tant changé que je n'en avais nulle certitude. Des parterres de fleurs lumineuses éclairaient la pénombre, invisible, une fontaine égrenait un carillon assourdi d'éclaboussures, les senteurs vespérales des bouquets se mêlaient à la brise nocturne. Seule sur un banc de pierre, Ortie, la tête appuyée contre le mur derrière elle, contemplait le firmament. Je tressaillis en la voyant. Sa somptueuse chevelure avait été coupée ras, manifestation de deuil la plus ancienne des six duchés et rarement pratiquée par les femmes. J'allais m'asseoir sur le pavé devant elle, sous ma forme de loup. Elle sortit de sa rêverie et me regarda.
« Tu sais que mon père est mort ?»«
Oui, je regrette. » Ses doigts se mirent à jouer avec un pli de sa jupe noire.
« Tu y as assisté ?»
demanda-t-elle au bout d'un moment. « À sa mort, non. À la blessure qu'il a causée, oui. » Un bref silence s'installa entre nous.
Pourquoi éprouvais-je tant de gêne à m'en enquérir ?
Dit-elle enfin,
comme si ma curiosité était déplacée. Le prince, je le sais, juge plus convenable d'éviter la question et de saluer seulement la vaillance et l'héroïsme de mon père. Mais ça ne me suffit pas. Je veux apprendre comment il a péri, ou plutôt, comment il a été blessé. J'ai besoin de connaître tous les détails. On a jeté sa dépouille à la mer, et je ne le reverrai plus jamais, ni mort ni vivant. Sais-tu l'effet que ça fait de t'entendre dire que ton père est mort, et rien de plus ?
Ah oui, parfaitement. Ça m'est arrivé aussi.
Mais on a fini par te révéler ce qui s'était passé ?
On m'a raconté le mensonge qu'on racontait à tout le monde. Non, on ne m'a jamais dévoilé les causes véritables de sa disparition.
Je compatis.
Fit-elle avec une sincérité non feinte. Elle me regarda soudain avec curiosité.
« Tu as changé, fantôme de loup. Tu vibres, tu... comme quand on frappe une cloche. Quel est le terme ?»«
Raisonner, suggérai-je. »
Elle acquiesça de la tête. « Je te perçois plus clairement, presque comme si tu étais réel. »
« Mais je suis réel. »
« Je veux dire, présent ici avec moi. »
Je n'avais pas d'autre souhait. Que désires-tu savoir ? Elle leva le menton.
Tout. C'était mon père.
En effet. Je devais en convenir. Je rassemblais mon courage. L'heure avait sonné. Tout à coup, une pensée traversa mon esprit et je demandai : Où te trouves-tu en cet instant ? Es-tu éveillé ? Elle poussa un soupir.
Comme tu le vois, « Je suis dans le jardin de la reine, au château de Castelserre, » dit-elle d'un air accablé. « Sa majesté m'a permis de retourner chez moi 3 jours. Elle s'en est excusée auprès de ma mère et de moi, mais elle ne pouvait m'accorder plus de temps pour mon deuil. Depuis que j'apprends à maîtriser mes rêves, même mes nuits ne m'appartiennent plus. Je reste toujours à la disposition du trône loin-voyant, et je dois lui consacrer mon existence entière. »
Je choisis soigneusement mes mots. En cela, « Tu es l'enfant de ton père. » Elle s'enflamma brusquement et sa colère illumina le jardin.
« Il a donné sa vie pour les loin-voyants. Et qu'a-t-il eu en retour ? Rien. Si, un lopin de terre maintenant qu'il est mort. un certain domaine de Flétribois dont je n'ai jamais entendu parler. Mais qu'ai-je à faire d'une propriété et d'un titre? On me donne du Dame Mortie aujourd'hui, comme si j'étais la fille d'un noble, et dans mon dos, on m'appelle Dame Buisson d'Épines, parce que je dis ce que je pense sans mâcher mes mots. Je me fiche de ce qu'on raconte sur moi. Dès que possible, je quitterai cette cour pour retourner chez moi, dans ma vraie maison, celle que mon père a bâtie avec ses granges et ses pâtures. On peut bien me reprendre Flétribois et le démolir pierre par pierre, ça m'est égal. Je préférerais qu'on me rende mon père.
Moi aussi. Néanmoins, tu as droit à la propriété de Flétribois davantage que quiconque. Buric a servi le prince Chevalerie, dont ce domaine comptait parmi les préférés. Le recevoir fait quasiment de toi l'héritière de Chevalerie. Et j'avais la certitude que c'était l'intention de Patience. Aussi capable que n'importe qui de calculer le nombre d'années et de mois, elle savait pertinemment que l'enfant de Molly était de moi. Et la vieille femme avait fait en sorte qu'Ortie obtienne une partie des terres de son grand-père. Cette attention me réchauffa le cœur, et je compris soudain pourquoi Patience avait attendu la mort de Buric pour donner le domaine à Ortie. Elle respectait sa volonté de se présenter comme le père de la jeune fille et ne voulait rien faire qui pût remettre sa paternité en question. Aujourd'hui, ce don pouvait passer pour la récompense de la loyauté de Buric et non pour un héritage transmis à une petite fille. La subtilité de mon excentrique mère adoptive me ravirait toujours.
Quand même, je préférerais retrouver mon père.
Elle renifla et détourna le visage vers l'obscurité, puis poursuivit, la gorge serrée.
Alors, vas-tu me raconter ce qui lui est arrivé?
Oui, mais j'essaie de savoir par où commencer. Alors que je mettais en balance ma prudence et mon courage, je compris brusquement que mes sentiments ne devaient pas jouer dans ma décision. Quel choc pouvait supporter une jeune femme qui souffrait déjà de la solitude et d'un grand deuil? Le moment était mal choisi pour modifier la perception de sa propre identité. Elle affrontait déjà bien assez de bouleversements. Qu'elle pleure tout son soûl, sans qu'à sa peine s'ajoutent les questions que ne manqueraient pas de soulever mes révélations. Ton père a reçu sa blessure, dont il est décédé au service de la monarchie loinvoyant, c'est exact. Pourtant, quand il a jeté à genoux un dragon de pierre par la seule force de sa volonté, il ne cherchait pas à protéger son prince, mais son fils bien-aimé que le monstre menaçait. Elle n'en croyait pas ses oreilles.
Lest ?
Naturellement. C'est à cause de lui qu'il est venu sur l'île, pour le ramener sain et sauf chez lui. Il ne croyait même pas à l'existence d'un vrai dragon.
De nombreux points me restent obscurs. Tu parles de cette créature qu'ils ont affrontée comme d'un dragon de pierre. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Elle avait le droit de savoir. Aussi, lui narrai-je le récit héroïque où soufflait la magie maléfique de la femme pâle, d'un homme seul et à demi aveugle, venu s'opposer à un dragon pour l'amour de son fils rebelle. Je lui racontais aussi la façon dont l'Est avait tenu ferme face à la charge du monstre et décoché la flèche qui l'avait tué. Puis, j'évoquais sa fidélité inébranlable à son père agonisant. J'exposais même l'histoire du clou d'oreille qu'il arborerait quand il reviendrait auprès de sa famille. Elle pleura pendant ma relation, et ses larmes noires se dissipèrent en tombant. Son jardin disparut, effacé par la laine froide du glacier, et je le compris soudain. Elle ressentait si vivement mon histoire qu'elle la vivait à travers moi. Quand je me tus, alors seulement le jardin renaquit doucement autour de nous, avec des fragrances plus nettes, comme si une averse venait de les amplifier. Un papillon de nuit passa près de nous en voletant.
« Mais quand l'Est rentrera-t-il »
demanda-t-elle inquiète.
« Ma mère souffre déjà bien assez de la mort de son mari. Elle ne devrait pas avoir en plus à se ronger les sangs pour son fils. Pourquoi l'expédition tarde-t-elle tant alors qu'elle a rempli sa mission ?»
L'Est sert son prince. Il reviendra en même temps que lui, lui assurai-je. Les négociations de mariage se poursuivent pour sceller l'amitié entre nos deux pays. Ces tractations prennent du temps.
Mais qu'a-t-elle donc, cette fille ?
S'exclama Ortie avec colère.
N'a-t-elle que du vent dans la tête, ou bien aucun sens de l'honneur ? Elle doit s'en tenir à la promesse qu'elle a faite. Elle l'a eu, sa tête de dragon, sur sa pierre d'âtre. Je m'en suis occupé moi-même.
Je l'ai appris, en effet, dis-je, avec quelque malice.
J'étais folle de rage contre lui, reprit-elle sur le ton de la confidence. Je n'ai rien trouvé d'autre à faire.
Tu en voulais à Glacefeu ?
Non, voyons, au prince de voir. Et que j'hésite, et que je m'interroge, et que je n'arrive pas à me décider.
Me voit-elle comme un ami? Est-elle amoureuse de moi? Je refuse de l'obliger à respecter un marché passé sous la contrainte. Ma noblesse de cœur me l'interdit, et patati et patata. Pourquoi ne dit-il pas simplement à cette capricieuse d'Outrilienne « J'ai payé l'octroi, maintenant je traverse le pont. » Avec moi, il n'y aurait pas de discussion, je te le garantis.
Son élan d'indignation mourut soudain, et elle poursuivit.
« J'espère que tu ne prends pas ma façon de parler pour un crime de lèse-majesté. Je ne veux pas me montrer irrévérencieuse, et je suis aussi fidèle à notre illustre prince que n'importe lequel de ses sujets. Mais quand on communique avec quelqu'un d'esprit à esprit, on a du mal à ne pas oublier qu'on a affaire à un personnage d'un rang bien supérieur. Par moments, il me paraît aussi obtus que mes frères, et j'ai envie de le secouer comme un prunier pour lui remettre les idées en place. »
Malgré ses protestations de loyauté à son souverain, elle parlait de lui comme d'un adolescent balourd. « Alors, comment t'y es-tu prise ?»«
Eh bien, les Outriliens faisaient tout un tas d'histoires parce que le prince n'avait pas apporté la tête du dragon sur la pierre d'âtre de leur maison maternelle. » Comme si le sauvetage de la mère et de la sœur de la Narcheska ne valait pas une grosse tête d'animal couverte de sang et puante devant leur cheminée.
Je perçus l'effort qu'elle fit pour se dominer.
Note que je savais tout ça uniquement parce que je transmettais les messages du prince à la reine. C'est moi qui dois me présenter devant elle chaque matin pour lui faire part des nouvelles qu'on lui envoie par mon biais. S'imagine-t-il que c'est agréable? Mais un matin, très tôt, alors que j'avais laissé Sa Majesté l'air grave et le cœur lourd parce que le mariage risquait de ne pas avoir lieu, j'ai songé tout à coup que je pouvais peut-être jouer un rôle dans l'affaire. À force de supporter les fanfaronnades et les menaces de Tintaglia, j'ai fini par bien la connaître. Aussi, tout comme elle s'introduisait dans mes rêves pour masticoter, je lui ai rendu l'appareil, car à aller et venir dans mon sommeil, elle avait laissé une sorte de chemin qui me permettait de remonter jusqu'à elle. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Si, si. Mais je reste confondu qu'on ose asticoter une créature pareille.
Bah, dans le monde du rêve, nous nous valons bien. Tu t'en souviens peut-être? Ça m'étonnerait qu'elle prenne la peine de se rendre en chair et en os jusqu'ici pour piétiner une petite humaine de rien du tout. Et au contraire de moi, elle aime dormir à point fermé, après qu'elle a mangé ou s'est accouplée. J'ai donc choisi précisément ces périodes-là pour l'importuner.
Et tu lui as demandé d'ordonner à Glacefeu de retourner sur l'île de Maïlée pour poser la tête devant l'âtre de la Narcheska.
Demandé? Non, je l'ai exigé. Comme elle refusait, je me suis moqué d'elle en déclarant que, malgré ce qu'il devait aux humains qui l'avaient sauvée, Glacefeu était trop mesquin pour reconnaître sa dette et qu'elle-même n'osait pas l'obliger à lui obéir, car bien qu'elle se prétende reine, elle le laissait la dominer. Et j'ai ajouté que son accouplement avait dû lui gâter la cervelle. Ça l'a mise dans une fureur noire, tu peux me croire.
Mais comment savais-tu que tu obtiendrais ce résultat?
Je l'ignorais. Je bouillais de colère et j'ai simplement dit ce qui me passait par la tête.
Je la sentis soupirer.
C'est un défaut que j'ai et qui ne me rend pas populaire à la cour. J'ai la langue trop agile. Mais c'est aussi, je pense, la meilleure façon de s'adresser à un dragon. Je lui ai déclaré que, si elle n'était pas capable de forcer Glacefeu à honorer ses dettes, elle ferait mieux d'arrêter de jouer les grandes dames. J'ai horreur des gens qui prennent tout le monde de haut, alors qu'à la première égratignure, on s'aperçoit qu'ils ne valent pas mieux que les autres.
Elle s'interrompit, puis reprit.
Ça vaut pour les dragons aussi. Dans les légendes, on les décrit comme pleins de sagesse, ou doués d'une force colossale, ou...
Je la coupai. Ils possèdent une force colossale, je peux te le garantir.
Peut-être. Mais Tintaglia, par certains côtés, elle me ressemble. Il suffit de lui chatouiller l'amour-propre, de la dire incapable de quelque chose pour qu'elle se sente obligée de prouver le contraire. Elle joue les mouches du coche, voire carrément les brutes, si elle ne pense pas avoir à redouter de retour de bâton. Et au simple prétexte qu'elle vit très longtemps et qu'elle est née avec tous les souvenirs de ses ancêtres, elle nous traite comme des moucherons ou des fourmis dont l'existence n'a aucune valeur.
À t'entendre, j'ai l'impression que vous avez eu de longues conversations sur ce sujet. Elle hésita un instant.
C'est une créature intéressante. Je ne pense pas que j'oserais jamais la qualifier d'amie. Elle se croit, ou plus exactement, à mon avis, elle croit que je lui dois fidélité et obéissance ou adoration simplement parce que c'est un dragon. Mais comment considérer quelqu'un comme un ami si je sais que cette personne n'accorderait pas plus d'importance à ma mort que moi à celle d'un moustique dans la flamme d'une bougie? Oh, il est mort. Dommage. Comme si je n'étais qu'un animal. Elle arracha une fleur d'un parterre proche, avec l'air de vouloir la mettre en pièces. J'avais tressailli à sa dernière phrase. Elle le perçut. « Non, je parlais d'un insecte ou d'un poisson, pas d'un loup. » Puis, comme si cette idée lui traversait seulement l'esprit, elle déclara « Tu n'es pas tel que je te vois dans ma tête. Je m'en rends compte à présent. Je sais que tu n'es pas un loup. Je ne te considère pas comme un simple animal. Tu m'en veux ?» Précipitamment, elle repiqua la fleur sur sa tige brisée. Elle m'avait froissé, mais j'aurais été bien en peine de m'en expliquer le motif, et à elle, à plus forte raison. « Ce n'est pas grave. Je sais ce que tu voulais dire. Et quand tu rentreras avec les autres, j'aurai enfin l'occasion de te rencontrer et de te voir tel que tu es réellement ?»«
Quand je rentrerai, nous nous rencontrerons, très probablement. »
« Mais comment te reconnaîtrai-je ?»«
Je me présenterai. »«
D'accord. »
D'un ton hésitant, elle ajouta
« Tu m'as manqué pendant ton absence. » J'avais envie de te parler quand on m'a appris la mort de mon père, mais je ne te trouvais pas. Où étais-tu ?
Quelqu'un de très important pour moi avait des ennuis. Je suis allé l'aider. Mais tout est rentré dans l'ordre, et nous allons bientôt revenir.
Quelqu'un d'important pour toi ? Ferais-je sa connaissance ?
Bien sûr. Il te plaira, je pense.
Qui es-tu ?
La question me prit au dépourvu. Je ne tenais pas à lui révéler tout de suite mon identité de Fitz-Chevalerie, ni de Tom Blaireau, et je répondis au débeauté. Quelqu'un qui connaissait ta mère avant qu'elle ne rencontre Burick et ne l'épouse. Je ne m'attendais pas à sa réaction.
« Tu es si âgé que ça ? »
fit-elle, abasourdie. « Et je viens de prendre encore un coup de vieux, je crois, » répondis-je en riant. Mais loin de partager ma gaieté, elle dit d'un ton guindé.
Alors je suppose qu'à ton retour, tu fréquenteras plus ma mère que moi ?
Je n'avais pas prévu cette complication. La jalousie vibrait dans ses pensées. Je m'efforçais de l'apaiser. Horty, je vous porte de l'affection à toutes les deux depuis longtemps, et je continuerai ainsi. Plus froidement encore, elle demanda «
Vas-tu essayer de prendre la place de mon père auprès d'elle ?»
Avec une impression de sottise et de maladresse, je cherchais une réponse, puis, par un effort de volonté, affrontais une vérité que j'avais toujours esquivée. « Horty, ils ont vécu ensemble, combien ? 16 ans ? Ils ont élevé ensemble 7 enfants. Crois-tu que quiconque puisse remplacer Burick auprès de ta mère ?»«
Je voulais seulement que la situation soit claire, »
dit-elle un peu radoucie. Puis, elle me signifia mon congé.
Et maintenant, je dois te chasser de mes rêves au cas où le prince souhaiterait me contacter. Presque tous les soirs, Sire Humbre ou lui me donne des messages à transmettre à la reine. Je n'ai plus beaucoup de temps à consacrer à mes songes personnels. Bonne nuit, fantôme de loup.
Là-dessus, son jardin parfumé et son monde délicatement crépusculaire s'effacèrent, et je me retrouvai dans l'obscurité. Il me fallut quelques instants pour m'apercevoir que je ne dormais pas et qu'étendu par terre dans la grotte de l'homme noir, je contemplais les ombres à peine éclairées par les braises du feu. Je repensais à ma conversation avec Horty et jugeais stupide de ma part de lui avoir laissé entendre que j'avais jadis aimé sa mère. Et comment avais-je pu ne pas prévoir que les enfants de Molly, Horty comprise, me regarderaient comme un intrus dans leur famille ? Saisi d'un découragement accablant, j'envisageais de ne pas m'approcher d'eux et de rester totalement à l'écart. Mais aussitôt émergea une résolution de fer. Non, je ne refuserais pas d'affronter le gâchis de mon existence. J'aimais toujours Molly, et il n'était pas impossible qu'elle nourrît quelques sentiments pour moi. Et même dans le cas contraire, j'avais promis à Burick de veiller au bien-être de ses plus jeunes fils. On aurait besoin de moi dans ce foyer, aussi défavorablement qu'on m'y accueillit. Certes, je risquais l'échec, et Molly pouvait m'y conduire, mais je n'acceptais pas de renoncer avant d'avoir essayé. Je rentrais chez moi.